Like I knew.
On a déjà le réflexe d'en parler, toi et moi, d'amis à amis, dans la mesure où t'es quelqu'un qui regarde pas beaucoup le monde dans les yeux.
J'ai de la misère.
T'es évitant du regard, t'es quand même renfermé. Quand t'es mal à l'aise, t'es sur ton sel. Mais tu sais, en même temps, je parle de toi, mais c'est la majorité des gens aujourd'hui. Puis je sais pas si c'est la façon dont j'ai été élevée, mais chez nous, c'était tellement important le fait de connecter visuellement avec quelqu'un, puis d'être présent, puis d'être là dans le moment. Mais même avec le temps, je réalise que moi aussi, je perds certaines capacités, compétences sociales. Que ce soit par mon langage corporel, le fait que ma tête s'en va ailleurs, le fait que personne ne regarde le monde dans les yeux maintenant. Fait que moi aussi, j'ai le réflexe de développer le regard un peu plus fuyant.
Mercredi passé, j'ai pogné quelque chose parce que je sais pas ce qui t'arrive, là. Tu m'as pas regardé dans les yeux dans un chin.
Gars, tu vois, je suis en train de changer. Max.
Alors que d'habitude, tu as le malheur de pas regarder quelqu'un dans les yeux dans un chin, puis qu'Audrey Pinchot est là, là. Hey, t'as intérêt à t'atteler, là. Puis là, j'ai figé. Oh, voyons donc, Audrey, tu m'as pas regardé dans les yeux.
Mais c'est ça, puis le langage corporel est souvent plus honnête que les mots. Puis je trouve que ça en dit long, le langage corporel, puis la façon dont on réagit. Est-ce que vous sentez qu'on a une baisse des compétences sociales en général? 88-971-1021. Puis là, c'est tellement large comme sujet parce qu'on pourrait parler dans le dating, on pourrait parler au travail quand tu as une rencontre avec ton boss, on pourrait parler de mille et un paliers. On va essayer d'être le plus large possible. Ceci dit, si vous avez des questions pour Guillaume, encore une fois, 88-971-1021. Guillaume, bon matin!
Bon matin, vous deux.
Trouves-tu qu'on a perdu nos skills sociaux? On a l'impression d'avoir perdu nos muscles même sociaux, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se sente aussi rouillé puis maladroit dans nos interactions aujourd'hui?
Bien, c'est vrai qu'on a de moins en moins de capacités relationnelles.
C'est
et
fou.
Je dirais que la communication, c'est un outil, hein, c'est pas un but. Fait que c'est comme n'importe quel outil. Fait qu'il s'agit de savoir, mais pourquoi tu voudrais cet outil-là qui est de la communication? Et c'est là que ça nous mène plus vers le bobo, c'est-à-dire l'engagement relationnel, le développement des relations, c'est plus une priorité maintenant. Donc, si tu écartes cette priorité-là, que tu veux créer des relations, tu veux créer des engagements, tu veux résoudre des conflits, si ça t'intéresse plus, parce que tu penses que t'en as pas besoin tant que ça, ou que plus tu évites ça au fil des années, ben plus ça te rend anxieux socialement, donc plus tu peux te réfugier sur ton téléphone. Donc, on est dans une espèce de point tournant, puis oui, c'est vrai, la COVID a contribué à ça. Il y a eu un point tournant relatif à ça, mais il y a eu un point tournant technologique, c'est que les habiletés relationnelles, comme tu dis, c'est qu'ils servent moins parce qu'on a moins l'intention de créer des relations.
Bien, même que, tu sais, on parle d'habileté relationnelle, mais tu sais, tu as renommé la pandémie, puis ça me fait penser au fait que quand ça a fini par s'apaiser un peu, cette affaire-là, là, tu sais, on parlait d'à quel point les gens étaient rendus impatients sur les routes, à quel point on avait de la misère à se sentir là, d'humain à humain. Là. On n'est plus doux.
Ben c'est sûr que la COVID, ça a été un événement qui a créé beaucoup d'irritants, puis je pense que ça crée une espèce de volonté d'auto-remboursement, là. C'est-à-dire que là, j'ai comme gaspillé des mois puis des années de ma vie à faire pas grand-chose puis pas avoir des bonnes conditions de vie, puis t'as comme plus le goût de penser aux autres, tu veux penser juste à toi, fait que ça, je pense qu'il y a eu une part d'irritabilité relative à ça.
L'importance du regard, Guillaume, on en parlait d'entrée de jeu, Max et moi, je croise de plus en plus de gens qui ont de la misère à te regarder dans les yeux quand tu te parles. Puis je sais pas si je suis seule dans cette situation-là, mais pour moi, ça en dit excessivement long sur une personne. Je me force à soutenir le regard dans la vie pour montrer que je suis toute présente dans une conversation.
Mais pas trop longtemps, s'il te plaît, c'est mon pire cauchemar. Comme là, je te regarde dans les yeux, puis je me force, là, vu que c'est le sujet. Là.
Mais moi, je me suis pratiquée, okay, c'est pas venu naturellement.
Besoin d'un break.
C'est pas venu naturellement, mais il me semble que l'usage du regard, au-delà du simple contact visuel, il y a quand même une importance là-dedans pour lire les, je sais pas, les émotions, le...
Oui, c'est vraiment important. Il n'y a rien de plus précis que les mouvements oculaires. C'est très difficilement falsifiable. Il y a tout l'univers des muscles involontaires, mettons le cœur ou les intestins. C'est tout le système autonome. C'est pas quelque chose que tu peux contrôler volontairement. Puis tu as des systèmes musculaires qui sont volontaires, c'est-à-dire je peux lever ma main, je peux même sourire si ça me tente. Mais tout dans la communication relève pas du contrôle volontaire. Il y a des choses qui sont comme directement branché sur le cerveau, et ce qui reflète le plus ce qui se passe dans le cerveau, ben, c'est les yeux. C'est très difficile à falsifier et c'est pour ça que c'est une priorité voir les yeux. Parce que ce qu'on a l'habitude de faire, c'est que on va aller regarder les deux yeux d'une personne et après ça, on va comparer en triangle en dirigeant notre regard vers la bouche pour comparer les signaux de l'activation consciente musculaire de la bouche puis les comparer avec les signaux non volontaires entre les yeux. Puis là, si ça, il y a une correspondance, ça installe plus de confiance parce que ce que ça dit, c'est ce que la personne veut consciemment me démontrer, c'est pas mal ce qui est représenté dans sa tête. Donc, quand il y a une cohérence entre, par exemple, la bouche et les yeux, ça augmente ton désir de te confier, ça augmente la sécurité, ça diminue l'anxiété. Donc, les yeux, c'est super important.
Mais ça, ce que tu viens de dire, Guillaume, est-ce que tu t'en rends compte que tu fais ça quand tu parles à quelqu'un, que tu analyses ses yeux puis sa bouche, ou ça se fait naturellement dans ta tête que si tu te rends compte que ça fit, que ça match, ben tu vas être plus porté naturellement à te confier?
Oui, c'est automatique. C'est une question de millisecondes. Quand tu rentres dans une pièce, tu vas aller chercher les yeux de certaines personnes et automatiquement, tu vas avoir ce qu'on appelle une première impression. Ça se peut que la première impression soit plus une valence émotionnelle positive, puis parfois c'est plus négatif. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne personne que tu as vue ou que ça va mal aller. C'est juste qu'on vient avec un bagage, on vient avec des biais. Puis quand on voit certains mouvements oculaires, certains traits faciaux, certaines expressions, il y a déjà comme une espèce de préjugement qui se fait. On va toujours regarder les yeux, puis ça se fait en quelques millisecondes. Et tu parlais de, tu sais, qu'on a de la misère à regarder dans les yeux. Quand on fuit le regard d'une personne, c'est corrélé à de l'anxiété. Donc, il y a comme une souche d'anxiété sociale quand tu as de la misère à tolérer le regard d'une personne. Et c'est de plus en plus courant, en fait.
J'ai un texto qui est entré qui me fait rire. Je suis socialement incompétent puis je constate que le monde s'en vient pire que moi. Qu'est-ce qui fait que tu es socialement compétent ou incompétent de base? Parce qu'au-delà là, de la pandémie puis du fait qu'on est de moins en moins bon puis des écrans, puis tu as du monde qui sont juste, on appelle ça en anglais socially awkward.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que tu l'as ou tu l'as pas socialement?
C'est vraiment une bonne question parce que il y a beaucoup de structures neuroanatomiques qui sont impliquées dans la communication humaine. C'est ça. La communication humaine, ça représente carrément la psychologie entière d'une personne. Donc, quand tu lis la communication d'une personne, tu lis le non-verbal, tu lis à quelque part ce que le cerveau fait. Tu lis ses priorités, tu lis ses biais, tu lis l'anxiété. Donc, tout ça, c'est visible. C'est sûr que plus tu as d'entraînement, plus tu es capable de voir de choses, mais tous les humains voient ça de façon relativement instinctive parce qu'on a besoin de déterminer avec qui je peux me vulnérabiliser puis faire confiance. Donc, on cherche des façons d'éliminer des gens, c'est-à-dire, non, cette personne-là me donne pas assez confiance, je peux pas aller plus loin que ça avec elle, parce que j'ai trop de risques. Il y a une constante évaluation des risques. Maintenant, qu'est-ce qu'une personne compétente socialement ou pas? Ben, il y aurait, mettons, une petite liste là, à voir, c'est-à-dire, mettons, dans une phase d'écoute, qu'est-ce que tu fais? Il y a des personnes qui écoutent mieux que d'autres. Juste dans la phase d'écoute, qui est l'essentiel de la communication, c'est pas quand tu parles, c'est quand tu écoutes. Il y a beaucoup d'opérations qui se déroulent là-dedans. La plupart des gens savent pas vraiment quoi faire quand ils écoutent. Fait que leur cerveau, il se trouve une tâche parallèle, comme par exemple une autre idée, un petit distracteur, ou ils coupent la parole, un nouveau sujet. Donc, il y a plein de choses qui peuvent interférer dans l'écoute. Puis dans l'expression, c'est la même chose. L'objectif de l'expression, c'est de verbaliser quelque chose pour qu'un message passe, puis un message qui est approprié dans l'instant présent. Mais tout ça, c'est quand même beaucoup d'opérations complexes et il y a des gens qui ont beaucoup plus de difficultés à ça, là. Puis c'est pas rare, hein, juste être clair. La plupart des gens qui veulent développer leur communication, ils ne se sentent pas qu'ils s'expriment bien ou qu'ils se sentent pas compris, ils ne se sentent pas qu'ils ont de l'impact quand ils parlent. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Fait qu'il y a définitivement la phase d'écoute, il y a la phase d'expression, puis après ça, il y a le timing entre les deux, c'est-à-dire quand. Quand est-ce que c'est à toi à parler, quand est-ce que c'est à toi à écouter et combien de temps.
J'allais te demander justement si tu pouvais le développer tes capacités là. Je comprends que oui là, t'as parlé d'apprendre. Comment tu fais ça? Tu sais, mettons, moi je me dis, hey, là je suis tanné de pas être capable de regarder quelqu'un dans les yeux quand je parle. Comment je fais? Si tu me forces à regarder dans les yeux quand je parle, puis d'essayer d'y penser le plus souvent possible, puis à un moment donné, ça va devenir naturel?
Ben, je pense que certains coachs ou même des psychologues qui conseilleraient ça, moi, ce que je te conseillerais, c'est pas ça du tout. Moi, je te conseillerais de clarifier ce que tu veux de cette conversation-là et que tu aimes suffisamment cet objectif-là pour justifier le fait que tu accroches tes yeux dans les yeux de l'autre personne. Ça te prend une raison. Si moindrement les raisons sont pas claires, l'anxiété va prendre le dessus et là on va avoir un paquet de symptômes dans le visage, un paquet de petits tics dans la bouche, des petits rires, des sourires qui sont pas appropriés, des clignements d'yeux ou l'absence de clignements d'yeux qui veut dire que tu es en train de réfléchir pendant que l'autre parle. Donc ça dépend ce que tu poursuis. Plus tu vois une communication comme une aventure, puis tu connais les règles du jeu, tu sais comment jouer. Comme, tu sais, je t'entends souvent parler de hockey, là. Moi, là, quand tu parles de ça, pour moi, c'est comme si t'es un extraterrestre, je comprends rien là-dedans, là, tu sais. Mais si tu veux jouer à ça, faut que tu comprennes l'univers du hockey, faut que tu comprennes les règles du jeu, puis des habiletés de base. La com, c'est la même chose. Même si on parle, la plupart des gens n'ont pas des bonnes habiletés de com, puis surtout pas en 2025, 2026, où est-ce qu'on est complètement dépourvu pour faire face au tsunami technologique qui nous isole de plus en plus. Donc, on a encore plus besoin de ces habiletés-là pour avoir du fun à communiquer. Sinon, c'est l'anxiété qui gagne.
Mais c'est pas un manque de sincérité s'il faut que t'apprennes à communiquer. Comprends-tu ce que je veux dire?
Ben, dans quel sens ça serait un manque de sincérité?
Ben, tu sais, s'il faut que Max se force à me regarder dans les yeux quand on se parle,
Sais-tu que
puis que
je
c'est.
l'aime pas au fond de moi?
Non, ça peut être une habitude, premièrement. Ça se peut que tu fasses ça tout le temps. Fait qu'avec l'habitude, c'est comme un petit réflexe. Les yeux ils vont à droite puis à gauche. Tout le monde a ses petits tics, ses petits réflexes. Fait que ça peut être quelque chose que quand tu transportes généralement dans tes relations,
Ouais.
mais c'est sûr que ça va être pire avec une personne qui te rend anxieux. Ça va être moins pire avec des personnes qui te rendent moins anxieux. Mais ça ne change pas que des fois, il y a comme des petits tics à casser là,
OK.
pour remettre la communication sur la traque.
Hey, je te dis, Guillaume, depuis tantôt, je regarde Max des yeux. Je pense qu'il m'a regardé deux fois, le regard fuyant, ça me fait mourir. C'est un sujet qui fait beaucoup réagir par texto, là. Il y a bien du monde qui se retrouve dans ce que tu dis ou qui se trouve pas bon socialement. Et comment le cerveau interprète la communication via un écran vis-à-vis un échange réel? On a-tu les mêmes réflexes ou étant donné que l'écran nous sépare, ces réflexes-là sont pas là?
C'est une très bonne question. Alors, la plupart des comportements de communication vont être les mêmes, mais ça dépend de la qualité de l'image, ça dépend de la qualité là, du rafraîchissement de l'image. C'est-à-dire que le visage, c'est tellement précis que pour avoir les bons cues en temps réel, il faut que ta connexion Internet soit super bonne. Ça, c'est un gros facteur. Sinon, tu as un décalage, puis c'est comme il te manque 80% des signaux. Et l'autre chose, c'est que quand tu n'es pas en présence physique d'une personne, ça fait chuter l'indice de vulnérabilité entre les deux personnes. Et donc, la vulnérabilité, c'est ce qui prédit la relation. Fait que tu peux pas directement créer de la relation. Tu peux pas la synthétiser tout seul. Tout ce que tu peux faire, c'est créer des conditions ou de dévoilement. Et lorsqu'il y a des conditions de dévoilement, il va y avoir l'indice de vulnérabilité qui va augmenter. Et c'est là où la relation arrive comme une espèce de filet de sécurité pour compenser proportionnellement la vulnérabilité. Quand tu es en ligne, automatiquement, t'es extrêmement confortable sur ta chaise. La personne, c'est juste une image sur ton écran, elle peut rien te faire. Donc, t'es comme un peu blindé de sécurité. La contrepartie, c'est que la vulnérabilité va être plus dure à aller chercher. Donc, il faut que tu sois plus habile pour aller chercher des meilleurs sujets de conversation pour développer ça parce que la corporalité, la présence physique aide.
On a parlé de regard. J'ai envie qu'on parle de posture. Parce que chez nous, je ne sais pas pourquoi, mais la posture, c'était une obsession de mes parents. Regarde les gens dans les yeux, aie une bonne poignée de main, tiens-toi droite. J'ai même eu des livres sur la tête à un certain moment, là, dans le sens que.
Étiez-vous des militaires,
Non,
Simonac?
mais probablement par le travail de mon père, mais. Je pense que mes parents m'ont beaucoup appris sur la première impression puis la confiance que tu peux donner à quelqu'un parce que tu dégages, puis le fait d'être accueillant, puis d'être solide, puis d'être ancré justement dans une discussion humaine que t'as, que t'entames. Fait que ça a toujours été, je sais pas, mon premier réflexe quand j'entre dans une pièce, c'est malgré moi de juger les gens qui sont un fuyant du regard,
oh
ceux
non.
qui ont les épaules complètement rentrées par en dedans puis le dos courbé, là, qui sont super... Je trouve que le physique parle énormément. Fait que ça faisait partie des choses qui étaient importantes chez moi, sans blague, à la maison, dans l'éducation. Puis la posture, j'ai l'impression que c'est une autre affaire, ça, qu'on perd, entre guillemets. Puis je sais pas à quel point c'est important, Guillaume, mais il me semble... posture de, je sais pas, on entend souvent parler d'ouverture, de fermeture. Là, je n'irai pas dans les bras croisés, c'est trop cliché, mais la posture en dit long aussi par rapport à la communication.
Absolument, c'est vraiment, vraiment important la posture, puis on en parle très peu, mais la posture, c'est le jour et la nuit. Quand tu as une première impression d'une personne, la façon dont elle se tient, sa posture va influencer directement ton opinion d'elle. Donc, la posture est très reliée à la sérotonine, c'est-à-dire que plus tu as une posture qui est solide, qui est droite, c'est plus en lien avec des émotions positives, c'est plus en lien avec l'extraversion, c'est plus en lien avec une sérotonine qui est dégourdie, c'est négativement relié à l'anxiété. Donc, la posture parle, la position des épaules parle, la rotation interne des rotules parle. Fait que si une personne a le cou un petit peu vers l'avant, il a le dos un petit peu rond, les épaules vers l'avant, puis les rotules tourner vers l'interne, automatiquement, on n'est pas dans une posture de leadership. C'est sûr qu'on part à moins 50. Donc, c'est important de contrôler sa posture, puis c'est important de prendre des bonnes habitudes. Par contre, ça ne sert à rien de dire au monde, ben, mets-toi des livres sur la tête, marche droite, mais tu ne sais pas quoi dire. Tu ne sais pas c'est quoi une relation, tu ne sais pas comment gérer un compte. C'est pas, tu sais, fait que c'est une partie des choses, mais c'est une partie qui est très importante, la posture, et on va même la sentir à travers les médias sociaux, puis on va la sentir à travers un écran.
Oh ben, on peut-tu parler un peu du fake it till you make it? Parce que moi, je sais que j'ai été longtemps une personne très, 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 très peu confiante. Et bon, je sais que l'estime de soi et la confiance de soi, c'est peut-être un... On a parlé, Guillaume, là, c'est un concept qu'on partage peut-être un peu moins, mais ce que je veux dire, c'est que en mes capacités, j'avais pas beaucoup de confiance, mais parce que mes parents me disaient « Tiens-toi droite », je donnais cette impression-là. Je me suis fait dire ça vraiment souvent. Mais toi, Audrey, t'es en contrôle. Toi, Audrey, on le sent, là, que tu sais où tu t'en vas, puis t'as l'air confiante, puis et pourtant. Mais ça se peut-tu que le « fake it till you make it » aide dans ces cas-là, puis te mène justement à l'incorporer naturellement?
Ben tu vois, il y a une partie que oui, puis une partie que non là-dedans. C'est-à-dire, j'aime pas l'expression « fake it until you make it », parce que c'est comme, combien de temps faut que tu fake? Puis quand est-ce que tu peux dire « OK, ça y est, c'est rendu vraiment ma nature, je le fake plus ». C'est comme, non, tu travailles là-dessus. Donc, si tu travailles là-dessus, tu travailles à améliorer tes comportements. Donc, c'est un work in progress. Donc, c'est pas fake it, c'est pratique les bonnes habitudes jusqu'à ce qu'elles deviennent plus automatiques pour qu'elles s'incorporent à ta personnalité. Mais c'est pas fake it, c'est work on it et ça va s'améliorer. Donc, ça serait une meilleure phrase que « fake it », je pense. Parce que sinon, les gens se disent « moi, je vais être authentique, je ne veux pas faire semblant, je ne veux pas faire quelque chose qui ne me représente pas ». Non, c'est « tu veux jouer au hockey, joue bien ». C'est pas « apprends à faire des bons jeux, apprends à faire du bon patin, apprends à te tenir, apprends à écouter, apprends à savoir quand hocher la tête, quelle amplitude, quand est-ce que c'est ton tour de parler. Apprends les règles du jeu, puis apprends la posture ». Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sportif que être quelque chose, la communication. C'est très, très dynamique, puis c'est super intéressant quand on sait quoi pratiquer.
Mais comme dans le sport, puis comme dans un peu tout... j'ai l'impression, j'ai même la certitude, j'ai envie de dire, puis au pire, tu me reprendras, qu'il y en a qui l'ont beaucoup plus facile puis naturel que d'autres, puis qui n'ont pas à le travailler, puis qu'eux autres sont nés de même, puis sont nés qui marchent drette, puis qui regardent dans les yeux, puis qu'il n'y en a pas de problème. Là.
Ben, il y a une partie que c'est l'éducation, puis il y a une partie que c'est la structure neurobiologique de la personne. Je pense qu'on a déjà parlé des cinq traits de personnalité dans des discussions précédentes. Par exemple, le neuroticisme, c'est la quantité d'émotions négatives. Plus une personne a le neuroticisme élevé, plus elle a l'anxiété qui est élevée. Plus l'anxiété est élevée, plus il va y avoir des micro-comportements d'évitement. Comme le dos courbé, puis une mauvaise posture, c'est une forme d'évitement. C'est-à-dire, je me cache de mon propre corps. C'est comme ton corps veut se cacher pour pas être trop visible de la part de l'environnement. Tandis qu'une personne, mettons, qui a moins d'émotions négatives, qui a beaucoup d'extraversion, elle veut être vue. Et le charisme, c'est la volonté et la conscience d'être vue. Une personne qui rentre dans une pièce, elle veut être là, elle veut faire le contact, elle veut être vue, tout de suite, elle va shiner, tout de suite, tu vas le voir dans sa posture, et ça fait toute la différence, puis on le voit tout de suite, ça. Donc, on voit rapidement, grâce à ces signes-là, les intentions implicites d'une personne.
Je trouve ça fascinant. Après le regard, la posture, l'écoute. Je pense que l'écoute, c'est un art. Puis c'est peut-être moins physique comme trait, mais en même temps, tu le sens quand quelqu'un t'écoute pas physiquement. Je ne sais pas qu'est-ce qui détermine ça dans la face de quelqu'un, mais on dirait que tu le
Les
sens.
yeux puis la bouche, il l'a dit tantôt.
Certainement, je m'en allais là, ça doit aider. C'est quoi, mettons, là, de ton point de vue à la base, là, une écoute de haute qualité, là, parce que j'ai l'impression que des fois, il y a des gens qui t'entendent et il y a des gens qui t'écoutent. Puis pour moi, il y a une large différence entre les deux.
Oui. L'écoute, c'est quand même assez un défi, là. Même quand tu as toutes les règles. Mettre tout ça en place pour quand l'autre parle, c'est quand même un défi. Oui, les yeux vont jouer, oui, la posture, oui, la forme de la bouche, les expressions faciales, mais ça part avec de l'attention. C'est-à-dire, il faut que tu contrôles ton attention consciente. Donc, dans le cerveau, il y a plusieurs types d'attention, comme tu as de l'attention qu'on appelle périphérique, c'est-à-dire sur le côté, là, 180 degrés. Le système visuel, il peut voir les mouvements plus facilement pour aller reprioriser quelles sont les cibles importantes sur lesquelles mettre notre attention. OK? Fait que tu as de l'attention périphérique qui est plus alerte au mouvement. Et puis là, tu as de l'attention qu'on va appeler, mettons, fovéale, c'est-à-dire qui est connectée à un centre nerveux plus important dans le fond de l'œil. Donc, le traitement de l'information est beaucoup plus dense, beaucoup plus précis. Donc, quand tu mets ton attention consciente sur une cible, tu as un traitement de l'information qui est beaucoup plus fort. Donc, l'attention, ça semble quelque chose d'invisible. C'est vrai que c'est invisible, mais l'autre personne va reconnaître l'attention consciente et on peut voir si une personne met son attention consciente au complet sur toi. Une des choses qu'on peut regarder, c'est si tu parles avec une personne, puis la personne arrête de cligner des yeux, c'est qu'elle n'encode plus d'informations. Donc, les clignements d'yeux, ça sert à encoder quand tu écoutes. Donc, si une personne arrête de cligner des yeux, c'est parce qu'elle divise son attention entre ses propres pensées et toi. Donc, tu vas avoir une alternance attentionnelle et toute l'écoute se brise parce que l'autre personne va stopper son indice de vulnérabilité et va gérer les sujets en fonction de la sécurité que tu lui offres dans ta phase d'écoute. Par contre, si ton écoute est très stable dans les yeux des autres, tes clignements d'yeux sont adaptés, c'est de l'ordre de 17 clignements par minute normalement, ben on comprend, l'interlocuteur comprend que toute ton attention est sur lui et ça augmente son goût de parler, ça augmente le dévoilement et ça augmente la force de la relation. Fait que seulement, l'attention, c'est quelque chose qu'il faut que tu manies comme un sabre de samouraï, là. Faut que tu saches exactement ce que tu fais dans ton attention et tout le reste va avoir une espèce de balai qui s'engendre avec l'autre personne.
Il y en a qui vont compter clignement d'yeux
Non, mais je vais virer
aujourd'hui, là.
fort, je vais virer folle. Je trouve ça tellement, mais tellement intéressant. Le temps file, Guillaume, puis peut-être qu'on aura l'occasion de faire une partie 2 avec ça parce que je regarde les textos rentrer. Définitivement, il y a une couple de personnes qui ont envie justement qu'on pousse la réflexion. Il y a beaucoup de monde, de monde qui nous demande de pousser la réflexion sur le non-verbal, justement. Tu sais, un exemple que tu viens de donner avec les clignements d'yeux, peut-être qu'on pourra s'en monter quelques-uns puis se faire une suite. Pour aujourd'hui, j'ai envie de terminer en te demandant, mettons là, les gens qui nous écoutent depuis tantôt puis qui se disent, t'as à boire, j'ai de la job, là. C'est quoi le premier petit truc concret sur lequel tu peux travailler à partir d'aujourd'hui pour reprendre contact avec tes compétences sociales?
Je dirais, il y en a deux. La première chose dont on a parlé au début, c'est clarifier ce que tu veux de cette conversation-là. Déjà, aie un objectif. C'est super important d'avoir un alignement. La plupart des gens rentrent dans des communications, puis ils veulent soit réduire les émotions négatives, ou soit passer le temps, ou c'est pas trop clair. Juste l'absence de clarté de but va créer un paquet d'interférences et va déstabiliser l'attention consciente. Donc, première chose, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment savoir comment une personne se sent? Est-ce que c'est résoudre un problème? Est-ce que c'est de partager une idée? C'est-tu d'explorer un sujet? C'est quoi que tu veux? Donc, il faut que tu prépares ta communication avec quelque chose qui t'intéresse vraiment. La deuxième chose, ce serait relié à l'attention. Le défi, ça serait toujours de garder une seule cible attentionnelle pour les deux personnes à la fois. Donc, c'est comme le tennis. Tu as une balle, les deux joueurs regardent la même balle et c'est la balle qui va d'un côté à l'autre du court de tennis. Il n'y a jamais deux balles. Donc, c'est la même chose avec le focus attentionnel. Donc, si c'est moi qui parle, mon attention est sur moi-même puisque c'est moi qui parle. Mais l'autre personne, ça veut dire que tu dois t'assurer que son attention est réellement sur toi, comme au tennis. Ça veut dire que la personne qui parle, c'est elle qui a la balle. Et là, s'il y a un changement de rôle, ça veut dire que la balle va changer de camp. Donc, c'est l'autre personne qui va s'exprimer et par conséquent, ton attention doit suivre la balle. Donc, si le focus attentionnel est toujours le même pour les deux personnes, automatiquement, vous avez les meilleures bases pour créer de la vulnérabilité, explorer des bons sujets, puis que la conversation avance. Donc, synchronisation de l'attention et clarification des buts initiaux d'une conversation, ce serait deux excellents trucs.
Je trouve ça fascinant. Il y a quelqu'un qui nous demande par texto si tu aurais un livre à conseiller pour toutes ces techniques-là, ou peut-être que tu en parles sur ta page, sinon, peut-être que les gens peuvent aller directement là.
C'est pas parce que je veux prêcher pour ma paroisse, mais j'ai écrit un livre qui décrit ça, que je pense
Arrête!
qu'il y a beaucoup. Ça s'appelle Je suis un chercheur d'art. C'est disponible partout. Ça parle exactement de ça, tous les petits mécanismes, quoi faire quand tu parles, comment utiliser ta personnalité quand tu parles, qu'est-ce qui se passe quand tu écoutes, où est le sens, où est l'énergie, comment tu sens ça, les timings, les types de questions, les types de reflets. Donc, je suis un chercheur d'art, c'est une chose. L'autre chose, cette année, je vais mettre un fort accent sur la communication cette année, puis je vais sortir des nouvelles formations à partir de avril prochain pour apprendre à mieux communiquer. Donc, ça faisait longtemps que je travaillais là-dessus, puis je vais sortir des nouvelles formules cette année, fait qu'on va pouvoir se tenir au courant de ça.
Ben écoute, assurément, on s'en reparle la semaine prochaine parce que je vois les réactions et on n'a pas fini.
Merci. Merci encore à vous deux de l'invitation. Toujours apprécié.
Merci
Salut,
Guillaume.
Guillaume.
À la semaine prochaine, Guillaume Duluth, qui est docteur en neuropsychologie. Je ne savais même pas qu'il avait écrit un livre là-dessus. Je le répète, je suis un chercheur d'art. Si ça vous intéresse, définitivement, moi, ça m'intéresse. Ça m'a toujours fasciné. Mon premier regard, mon premier réflexe quand j'entre dans une pièce, fouille-moi pourquoi, c'est l'énergie que dégagent les gens, comment sont positionnés. Je trouve que ça parle beaucoup. Puis je ne suis pas parfaite là-dedans, loin de là, là. Je remarque que même moi, mon corps parle quand je suis inconfortable. Mais je trouve que c'est le fun d'en être conscient, ceci dit. Surtout dans un univers puis un monde où on perd beaucoup, beaucoup le contact humain.
Un matin, j'ai vécu l'affaire qui m'énerve le plus. Ben, pas au monde, mais tu sais, quand ici, il y a un long corridor.
Oui.
Puis tu sais, quand tu commences le corridor, puis il y a déjà quelqu'un qui commence aussi le
Ah, puis là,
corridor à
tu te dis
l'autre bout.
salut de loin,
Non,
mettons.
non, non, tu le connais pas. Tu
Ah,
connais pas la
OK.
personne. Puis là, avec là, j'ai tout de suite pris mon ciel, puis je regardais à terre.
Ah, voyons, toi!
Ben, parce que si je regarde droit, on va se voir,
Ben
puis on
oui,
va
puis là,
se.
tu souris.
Non! Le
Mince.
Guillaume doit être découragé.
Épouvantable. Allez, on s'en parle demain.
Yes, merci beaucoup, Audrey.
Salut.
Au retour, on va faire un petit tour à l'Assemblée nationale parce que ça continue de bouger. Et Pascal CV vient faire son tour, puis je vais essayer de la regarder dans les yeux. Le point de Mac.